Voilà, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais conclure ce matin avec la série sur le travail que j'ai commencé il y a maintenant 3 semaines. Est-ce que vous rappelez un peu ce que j'ai pu dire? Alors je vous fais un rappel, je ne vais pas être trop méchant ce matin. Première fois que j'en ai parlé, du coup la première prédication dessus, c'était sur la vocation, sur le travail, et que le travail pour nous a été institué par le Seigneur, institué par Dieu dès la Genèse, et que Dieu, du coup, nous demande à tout être humain sur terre d'être actif, comme Dieu est actif. Et parce que nous sommes faits à son image, Dieu nous demande, c'est pas une option, d'être actif, de travailler de nos mains. Même si cela, du coup, est difficile, puisqu'il y a le péché qui est là, et du coup, il y aura une malédiction de Dieu avec la venue du péché par rapport au travail, mais Dieu maintient sa vocation, maintient ici son commandement, tu travailleras de tes mains. Et du coup, cela nous concerne tous. On a vu ensuite, le dimanche d'après, que suite à l'entrée du péché, le travail est marqué par deux extrêmes, et dans notre monde aujourd'hui, ces deux extrêmes sont bien présents. Il y a la paresse, le fait de se contenter finalement de ne rien faire, et en France j'avais parlé que c'était un peu plus facile en plus de tomber dans cet extrême puisqu'il y a beaucoup d'aides sociales qui viennent du coup nous dire je peux vivre et je couds sans travailler, mais du coup on vit sur le dos des autres, et ça ce n'est tout sauf chrétien, et Dieu nous demande finalement de travailler, et Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas, donc les Corinthiens avaient la même ici mentalité, et il va leur adresser un commandement fort. Et puis de l'autre, on voit un autre extrême qui est aussi le travail excessif, vivre pour son travail, crouler sous son travail, être un peu quelque part une bête de somme, fuir du coup ses autres responsabilités dans la fuite au travail. Et du coup, il s'agit pour nous de pas tomber dans ces deux extrêmes, puisque le travail, certes, il nous a été donné par le Seigneur et pour le Seigneur, mais il s'agit d'être équilibré. Le travail reste quelque chose ici qui n'est pas un but à atteindre, pas une marque de vie. Non, ce qui fait la marque de vie de tout être humain, c'est sa relation avec le Seigneur. Ça va ? Dieu nous appelle ici à être équilibré. Ce matin, du coup, pour conclure, et ça va répondre à cette question, c'est pourquoi nous travaillons ? C'est la motivation du travail. Une fois qu'on a parlé de la vocation, des extrêmes, finalement, la motivation, quelle est-elle ? Qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin, à prendre mon déjeuner et à m'en rendre sur mon lieu de travail ? Payer les factures. C'est qui, Étienne ? Payer les factures. Payer les factures, ça en fait partie. Alors c'est bien parce que c'est une des réponses que j'ai données. Vous avez d'autres réponses ? Parce qu'on aime ça. Ah ouais, quand même. Alors des fois oui, on peut aimer ça et merci Seigneur si c'est le cas, merci Seigneur. Mais des fois on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça et voilà, beaucoup de travail que nous faisons, c'est pas quelque chose que l'on aime. Mais voilà, si notre réponse malheureusement c'est que c'est que pour le salaire. Je vous invite ce matin à écouter ce qui suit, parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas se contenter juste de cela, parce que sinon nos vies sont bien pauvres et tristes, même si notre travail ne nous plaît pas. Ce n'est pas la question. Ici, il ne s'agit pas de trouver un travail forcément qui nous plaît, il s'agit de travailler. Si ça nous plaît, tant mieux. Si ça ne nous plaît pas, ici, il y a une question de motivation dans tous les cas. Quelle est ma motivation ? La motivation pour servir, qui ? Exister, ouais, ça vient bien au-delà de tout ça. Aider les autres, oui. En tant qu'être humain, la vocation du travail, qu'est-ce qui nous différencie entre une bête de somme, un bœuf qui va labourer un champ, il va travailler toute sa vie lui aussi, il va exister par ce qu'il fait, il va servir son maître qui est agriculteur, même si aujourd'hui il y a des tracteurs, hein. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un homme que Dieu appelle à travailler et des animaux ou autres aux bêtes hein, qui vont aussi, parce que dans la nature, tout travaille, hein, les arbres travaillent, tout est en vie. Donc il s'agit pour nous de voir la différence, et j'ai intitulé le message, et ça va être la motivation, que Paul et que Dieu met, c'est travailler pour le Seigneur. C'est la motivation que la Bible nous donne, et j'ai mis du coup cette thématique et ce titre pour cette prédication, pour conclure ce matin, travailler pour le Seigneur doit être notre motivation. Peu importe notre travail, et ce, le pourquoi on se lève. Au-delà de notre salaire, au-delà de tout, on va voir d'ailleurs ce matin que quand Paul va parler, il va parler à des hommes qui ne sont qui ne sont même pas payés, et pourtant il va leur dire de travailler pour le Seigneur. Avant d'ouvrir le texte, Voilà, je vous invite à courber nos têtes et à prier que cette parole, du coup, et voilà, je veux quand même bien le préciser, puisse s'adresser à chacun de nous. Qu'on puisse ne pas penser « Ah, ça c'est bien pour mon voisin », ici que chacun ouvre son cœur. Cette parole s'adresse avant tout à toi qui es assis, pas à ton voisin. Il n'y a pas de fuite en avant à voir, que le Seigneur travaille nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole, que ce matin nous allons ouvrir, viens encore nous édifier, nous encourager. Merci parce que celle-ci trouve des réponses à tous nos questionnements et tous nos problèmes. Viens encore, mon Dieu, Jésus, ouvrir nos cœurs surtout. Ta parole, mon Dieu, peut dire des choses, mais nos cœurs aussi peuvent être des fois être bien fermés. Que nous puissions, mon Dieu, ne pas penser au voisin, à la voisine qui est à côté, mais que nous puissions regarder à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos manquements, à nos failles, pour nous remettre tout simplement tout cela dans tes mains, et pour que toi, Saint-Esprit, tu puisses encore agir dans nos cœurs, agir dans nos vies, et que nous puissions surtout te laisser toute la place. Amen. Je vous invite du coup à ouvrir la Bible du coup dans Éphésiens au chapitre 6, et nous allons lire du verset 5 au verset 9. Éphésiens chapitre 6. Si vous ouvrez vos Bibles, vous aurez tout le contexte. Voilà, moi j'ai mis que le passage qui m'intéresse ce matin, et vous aurez tout le contexte du coup du passage dans Éphésiens. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maître, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et qu'il ne fait pas de favoritisme. Amen. L'apôtre ici parle du travail dans le contexte de l'esclavage. On est sous l'Empire romain. Et au premier siècle, voilà, plus de la moitié de la population était réduite à l'esclavage. Souvent, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend pas compte. Hein. Mais voilà, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres au temps de l'Empire romain. Et du coup, l'esclavage était très répandu, y compris dans les églises. Et du coup, dans les églises, il y avait des Romains ou des Juifs libres, des chrétiens libres qui étaient là, mais il y avait aussi des chrétiens esclaves qui, du coup, avaient des maîtres. Alors, vous savez ce que c'est un esclave, hein? Un esclave, voilà, son travail, il n'est pas payé, il fait tout ce qu'on lui dit. Hein. Il n'a pas d'horaire, il n'a pas les 35 heures, il n'a rien de tout ça. Hein. C'est au bon vouloir de son maître. Et ici, Paul s'adresse du coup à cette catégorie de chrétiens et aussi au maître, du coup, qui possède des esclaves. Alors on peut s'étonner de ce que l'apôtre Paul ne condamne pas l'esclavage. Et nulle part dans le Nouveau Testament, Paul ne va condamner l'esclavage. D'ailleurs, les esclavagistes à un moment vont reprendre en disant « Oui, mais la Bible ne condamne pas et du coup on peut faire ». Bon, ça c'est une autre théorie encore. Mais l'esclavage, voilà, est révoltant. En tout cas, dans le principe biblique, il ne tient pas. Aime son prochain, ce matin il y a une parole, aimer nos ennemis. Donc si on donne aimer nos ennemis, encore plus le prochain qui, du coup, est à nos côtés. Et l'idée même qu'une personne puisse être propriétaire d'une autre personne nous choque et nous indigne, et à juste titre. Mais alors pourquoi, et moi je vous pose la question ce matin, pourquoi Paul ne traite pas de ce problème? Pourquoi il ne dit pas dans ses lettres, parce que Paul, voilà, il a la parole, il dit les choses, hein, que après les chrétiens, les églises l'acceptent ou pas, c'est un problème, mais lui, il n'a pas peur de parler. Mais pourtant, il ne condamne pas l'esclavage. Est-ce que du coup, cela veut dire qu'il l'approuve? Vous avez une réponse? C'est pas le sujet principal, alors est-ce que du coup, ça veut dire que l'esclavage, c'était mineur et... On pouvait parler d'autres sujets qui, comme manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais bon, l'esclavage, du coup, allez, c'est pas grave, on le passe sous table. Ouais, c'est une bonne réponse. Paul n'était pas là pour faire la révolution, mais pourquoi alors? Parce que dans ses textes, il y a quand même beaucoup de révolutions. Hein. Mais pourquoi il n'est pas là venu pour faire une révolution sociétale? Ouais. Ouais. Ouais, tu peux développer? Ouais, si c'est. Alors, je sais pas si c'est ça que t'as en tête, mais la réponse, elle est là. En fait, il faut comprendre le contexte. Ici, Paul, il c'est pas qu'il approuve l'esclavage, il ne l'approuve pas. D'ailleurs, dans tous les textes, voilà, il va parler d'amour du prochain, mais il va pas non plus préconiser, comme le dit Alain, de renverser tout cela au moyen d'une révolution sociale. Paul, il est pas là pour faire une révolution sociale. C'est pas son but. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours changer un système. Mais c'est pas le système le problème. La racine du problème, c'est le cœur de l'homme qui est marqué par le péché. Et Paul, il a très bien compris cela, et du coup, lui, il vise la racine du problème, le cœur des hommes. Si les cœurs des hommes se tournent vers le Seigneur, la société va changer. Et Paul, il a complètement tout compris. Il perd pas du temps dans toutes les conséquences du péché, dont l'esclavage faisait partie, mais ici, il va montrer, il veut démontrer comment l'évangile s'applique à toute personne de toute condition. Qu'elle soit une personne libre ou qu'elle soit esclave, croyant, et que du coup il va exhorter les deux groupes d'ailleurs, esclaves comme les maîtres, à vivre d'une manière digne du royaume de Christ. Et c'est ce texte du coup, c'est ce qu'il exhorte. Et du coup l'évangile s'adresse aux esclaves, il s'adresse aussi à des personnes libres et qui possèdent du coup aux yeux de Dieu une dignité, une valeur. Paul en parle, il en parle à deux reprises d'ailleurs dans Éphésiens puis aussi dans Colossiens. Et du coup, Paul il vise la racine du problème, le péché. Et en connaissant que voilà, l'évangile, plus l'évangile pénétrera du coup le cœur des hommes, plus cet évangile va transformer la vie des hommes. Et c'est ces hommes-là qui font ce système, et ces hommes-là du coup changeront de vie. Et inévitablement, du coup, les structures sociales, la société même romaine, du coup, changera. Et l'histoire ne lui a pas donné tort, puisque voilà, l'Empire romain, avec l'arrivée du christianisme, était un empire païen qui combattait le christianisme, et il va devenir même chrétien avec Constantin. L'empereur, du coup, va devenir chrétien, et l'empire, du coup, va devenir chrétien. Pourquoi ? Parce que les Romains et les païens de l'époque vont voir en des chrétiens des personnes différentes, des personnes qui reflètent l'amour de Christ. Quand on voit un esclave qui agit comme Paul, et on va le voir, ce qu'il demande ici aux esclaves, il y a une différence radicale. Pourtant, les esclaves ici, ils sont victimes de quelque chose d'injuste, ils sont victimes d'un péché. Mais Paul leur demande de vivre comme le Christ demande. Et de leur attitude, du coup, viendra quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, une révolution de tout l'Empire même romain. Pour nous, cette vérité de l'évangile qui transforme les cœurs, elle est toujours d'actualité. Pour nous chrétiens, il s'agit de transformer, de laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs, d'impacter le cœur de nos prochains pour que nous puissions voir du coup une révolution dans nos sociétés, dans nos entourages, dans nos familles. Bien souvent, on s'arrête sur les conséquences en disant « ouais, mais là c'est pas bien, faut changer ça ». Mais on se rend pas compte que voilà le vrai problème, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, c'est la racine du péché. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ici sont libérés du pire qui est l'esclavage. L'esclavage ici aussi du péché, et l'esclavage du péché c'est pire que l'esclavage avec des chaînes. Et Paul l'avait bien compris, ils sont rendus libres de vivre la vie nouvelle, quel que soit leur rang social. Et c'est vrai pour nous. Il n'y a pas d'esclaves parmi nous, mais ce que l'Esprit dit aux esclaves s'applique aux personnes libres, en particulier aux travailleurs et aux étudiants. Et ici, voilà, personne n'est esclave. Bon, si vous l'êtes, manifestez-vous, hein, on viendra vous aider, on va dire, allez, il y a un problème. Mais normalement, il n'y a pas d'esclaves en France maintenant. Mais voilà, si Paul s'adresse à des esclaves comme ça, ça s'adresse encore plus pour nous, travailleurs. On est rémunérés, on offre du coup ici beaucoup plus aussi, et on offre de notre temps, de notre capacité mentale. Et ici, il s'agit du coup de pouvoir se référer à ce texte où Paul parle des personnes qui travaillent alors qu'elles ne sont pas payées pour trouver la motivation. Un chrétien rempli de l'esprit fera son travail de bon cœur comme esclave de Jésus-Christ. C'est le terme qui est employé. Le terme grec ici c'est doulos, esclave, serviteur, mais c'est le même terme qui est employé, et Paul n'emploie pas un terme, oui, vous serez mes enfants en Jésus-Christ, mes esclaves de Jésus-Christ. C'est fort, hein? Il s'adresse à des esclaves, hein? Et il leur dit, voilà, il faut aller au-delà de tout ça. Alors premier point, j'ai mis trois points. Premier point, c'est une belle attitude au travail, ensuite on verra une belle motivation à travailler, et ensuite, dernier point, l'espérance d'une belle récompense pour notre bon travail. Premier point, une belle attitude au travail. À quoi ressemble un esclave rempli de l'esprit ? Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestre avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Paul demande à des esclaves. Finalement, voilà, l'évangile était assez puissant pour que les esclaves, que finalement, bah voilà, puissent vivre cela et dans leur labeur, ils puissent finalement se dire voilà, j'obéis au Seigneur. Je suis avant tout l'esclave de Dieu et ce Dieu qui est un bon maître pour moi. Finalement, si je lui obéis, Dieu fera son œuvre. L'évangile est capable de transformer n'importe qui et voilà. Comme je le disais, aujourd'hui parmi nous, personne n'est vendu comme esclave et personne n'est propriétaire normalement d'un esclave. Mais on doit, voilà, en plusieurs, on a chacun des patrons ou un patron. On travaille 35 heures, 40 heures, 50 heures par semaine et nous vendons du coup notre temps, nos talents à un employeur en échange d'un salaire, en échange d'une satisfaction d'un travail accompli. Et ce que Paul du coup dit aux esclaves et aux maîtres s'applique à nous aujourd'hui, à plus forte raison. Et les travailleurs et les employeurs chrétiens reçoivent du Saint-Esprit la capacité de vivre comme disciples de Jésus-Christ. Si Paul s'adresse comme cela à des esclaves, encore pour nous, on a encore moins de raisons de se dire c'est pas pour nous. On a encore plus de raisons ici de dire ouais ben bah, si Dieu dit cela à des gens qui sont enchaînés, encore plus forte raison pour nous qui sommes libres, chrétiens libres, pouvoir appliquer cela. Quelle attitude ? L'Esprit de Dieu produit dans la vie d'un travailleur chrétien, obéir à nos patrons comme à Christ. Paul ne dit pas obéir à votre patron qui est gentil, s'il est gentil, s'il vous fait du bien. Non, non, il n'y a pas de si. Obéissez à vos maîtres terrestres comme à Christ. C'est dur, hein? Je sais pas pour vous, j'entends pas beaucoup de amen, donc ça va, je me dis je suis pas tout seul. Moi je trouve que c'est dur. Ouais. Tout à fait. Mais ici, il parle pas de valeurs chrétiennes. Il parle pas de faire la révolution sociale. C'est pour ça que je suis revenu dessus au début. Il dit pas changez vos maîtres. Il dit obéissez à vos maîtres comme à Christ. À l'étang de l'Empire romain, il y avait des bons maîtres. Hein. Il y avait aussi beaucoup de mauvais maîtres. Des maîtres qui abusaient de leurs esclaves, dans tous les sens du terme hein, d'ailleurs. Il y en a qui mouraient, hein, des esclaves chrétiens qui mouraient, ou même des esclaves non chrétiens qui mouraient. Paul va pas leur dire « Ah bah du coup, faut pas obéir, faut vous rebeller parce que c'est pas ce que Dieu demande. » En plus, vous êtes victime d'une injustice. Paul ne dit pas cela. Pourquoi ? Parce que il sait qu'il y a pour ces hommes, pour ces maîtres, il n'y a que l'attitude, du coup, le contact de l'évangile qui peut transformer leur vie. Et le seul contact qu'ils auront, c'est la vie de ces esclaves chrétiens. Et du coup, ici, Paul leur dit, oui, vous êtes victime peut-être de quelque chose voilà, qui n'est pas facile, mais soyez chrétiens dans votre situation. Et Dieu fera le reste. Alors je vais y venir, c'est pas mauvais. Maintenant il y a le syndicalisé et le syndicat, c'est-à-dire celui qui travaille pour être syndicat, ça c'est autre chose. Donc là il y a peut-être quelque chose à travailler, mais il s'agit pas non plus ici d'être un chrétien paillasson et de pas revendiquer ses droits ou chercher une meilleure situation, ça c'est positif, mais c'est notre attitude ici la question. La question c'est pas est-ce que mon patron a raison ou pas. C'est comment, moi, en tant que chrétien travailleur, je me positionne dans mon travail. Est-ce que je travaille comme pour le Seigneur ? Finalement, Paul dit aux esclaves, votre maître, imaginez que c'est le Seigneur. Même si ça ne l'est pas, mais Paul ne dit pas ça. Travaillez comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, bah, taisez-vous, il y a un moment quand c'est dur, et même si c'est injuste, et ben, t'es esclave, c'est vrai, c'est injuste, c'est vrai. Et ben, il y a un moment, tu te tais, c'est pas grave. Tu laisses filer. Le Seigneur fera, du coup, lui. D'ailleurs, c'est ce que Paul conclut comme ça. Hein. Verset 5. Et Dieu rendra à chacun selon le bien qu'il aura fait. Pour nous, c'est difficile. Voilà, j'allais le dire, je vais le dire là. C'est difficile encore plus pour travailleurs français que nous sommes, parce que français, on est râleurs, on aime bien la révolution, on aime bien changer. Mais voilà, Paul ici s'adresse à des chrétiens esclaves, et pour nous, on peut être français râleurs. Il faut savoir à un moment, on peut râler. Je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est bien de râler. Mais tant que c'est bien fait. Et ici, aujourd'hui, on vit dans une société où il y a, voilà, la défiance à chaque fois vis-à-vis des autorités ou de l'autorité, peu importe l'autorité que l'on met, parentale, patron. Il s'agit pour nous, du coup, d'être des bons chrétiens. Des chrétiens qui ne ferment pas les yeux, mais qui savent se taire, qui savent se discipliner en sachant que c'est pas nous qui allons faire les révolutions. C'est notre attitude de cœur qui changera le cœur des autres. Est-ce que ça va? C'est pas simple, hein. Mais celui qui a l'esprit du Seigneur en lui est capable de le faire. L'évangile produit cette belle attitude, l'obéissance avec respect. L'esclave ici doit, du coup, doit écouter attentivement ce que son maître lui dit, il doit faire ce que son maître lui demande. En d'autres mots, Paul demande quoi? Sois le meilleur esclave que tu peux. Si je transpose pour aujourd'hui, sois le meilleur travailleur que tu peux, sois le meilleur étudiant, si tu es étudiant, ou au lycée ou à l'école, que tu peux. De quelle manière? Par notre attitude à l'égard de notre patron. Une attitude de respect, et on peut dire, voilà, une attitude ici de révérence. C'est le même terme qui est employé. Paul va employer le même terme dans Éphésiens 5, 21, un peu plus loin. Un peu plus tôt, plutôt, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Le mot se soumettre ici, voilà, péjoratif, hein, mais il est traduit par respecter. Un fort respect. Et respecter, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. C'est pas ça. Mais c'est être respectueux. Bon, moi j'ai deux enfants, ils sont jeunes, donc pour l'instant, ils me respectent et ils sont surtout contents, voilà. Mais quand on est enfant, il y a des moments où on n'est pas d'accord avec nos parents. Et pour autant, Dieu va employer le même terme, enfants, respectez vos parents. Il ne dit pas soyez d'accord avec tous vos parents. Et du coup, ça répond à la question, la fille. C'est pas être d'accord avec tout ce qui se fait, c'est respecter. Et respecter, c'est pas ouvrir sa bouche à chaque fois, c'est se taire. C'est ça le respect. En se disant, ok, là je suis employé, et ben je veux obéir au Seigneur, donc il y a un moment, je me tais, et moi je veux montrer une bonne attitude. Un bon comportement. De quelle manière, du coup, il s'agit ici de laisser le Saint-Esprit, puisqu'il n'y a que lui qui est capable ici de pouvoir faire la différence. Et notre clé ici, et on revient à la même chose, c'est nous imprégner de la parole de Dieu et du Seigneur lui-même, de son amour, pour que ce que Paul ici va dire à des esclaves qui vont le pratiquer, hein. Les esclaves d'Éphèse vont pratiquer la parole de Paul. Et du coup, leur plus belle récompense, c'est que l'Empire romain va changer. C'est fou, hein? L'Empire qui va persécuter ces mêmes chrétiens va changer. Et ça, c'est la plus belle marque de ce que l'Évangile est capable de faire. Alors, c'est facile de critiquer quand on est employé, de critiquer son employeur, de parler dans son dos, de se plaindre, ou de penser qu'on peut faire mieux que lui. Et c'est pareil, du coup, pour quand on est voilà, écolier ou étudiant vis-à-vis de nos professeurs. Et du coup, nous, chrétiens, on n'est pas immunisés contre une telle attitude. Parce que le péché, voilà, il est là et il sommeille des fois à notre porte. Et souvent, nous pensons avoir le droit de manquer de respect envers notre patron ou nos professeurs parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et du coup, on se dit, bon, moi, je comprends mieux un peu plus la vie chrétienne et la vie tout simplement. Donc moi, je vais t'expliquer un peu la vie. Mais Dieu nous appelle ici à nous taire et à vivre avant de parler. Alors, on peut aussi parler hein, positivement du Seigneur, mais il s'agit avant tout de vivre. Obéissez à vos patrons, respectez vos patrons comme au Seigneur. La question finalement, si nous sommes chrétiens, c'est est-ce que nous sommes réellement différents du reste de la société ? Qu'est-ce que notre entourage au travail dit de nous quand elle nous voit à l'œuvre, travailler de nos mains? Avons-nous ce même respect envers les personnes finalement qui sont là et qui sont nos employeurs? Si la réponse ici, elle est qu'on est exactement identique que tous ceux qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens, il y a un problème. Si on fait partie des mêmes groupes de personnes qui râlent, et peut-être à juste titre, hein, je dis pas que c'est faux. Hein. Mais quelle attitude, finalement, quelle est la motivation? Je dis pas ici qu'il faut pas faire, c'est pas la question, hein, comprenez-moi bien, c'est l'attitude de cœur. Quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose dans mon travail, finalement, est-ce que je le fais comme si c'était à Christ. Si c'était le Seigneur, est-ce que je parlerais comme ça? La question, elle est aussi simple que ça. Je pense que ça met beaucoup de... on relativise beaucoup plus. Et du coup, pour nous, il s'agit d'avoir ça dans nos têtes. Imaginez du coup ces esclaves chrétiens du 1er siècle qui avaient cette belle attitude envers leur maître. Des esclaves. Les autres devaient sûrement remarquer leur vie transformée. Et sur le marché du travail, dans nos études ou à la maison, les autres autour de nous devraient aussi remarquer que nous sommes chrétiens. Par notre attitude et le respect que nous avons dans notre travail. Un travailleur chrétien parlera et agira différemment. Une belle attitude est excellente, mais le Saint-Esprit travaille encore plus en profondeur et il développe en nous, et c'est mon deuxième point, une belle motivation à travailler. Quelle est cette motivation ? Verset 6, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Après que Paul ait dit de respecter finalement les maîtres, les patrons ici comme à Christ, Paul va aller plus loin. Il va employer un terme que je trouve très fort. Il va employer ce terme dans d'autres épîtres et on développera. Ça veut dire quoi être esclave du Christ? Mais ici, c'est finalement, agissez comme esclave du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Nous sommes ici des esclaves de Jésus-Christ. Vous regardez en mode « Quoi ?» Dans ce monde, en fait, on a tous un maître. Tous. Spirituellement, on a tous un maître. Ceux qui pensent qu'ils sont complètement libres, ils se leurrent, ils vivent dans des illusions, puisque leur maître, c'est autre chose. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail. Quelque part, toutes ces choses-là, c'est le diable qui est leur maître. Mais dans notre vie, on n'est jamais libre. Soit notre maître, c'est le Seigneur, qui est un bon maître, un excellent maître, un maître rempli de douceur et d'amour. Ou soit, finalement, c'est le maître qui vient nous... qui est le diable, qui vient nous assaillir et qui vient mettre dans nos vies beaucoup de lourdeur et de tracas. Paul rappelle ici aux esclaves qui sont enchaînés, chrétiens d'Éphèse, qui sont avant tout esclaves du Christ. Et que leur maître, du coup, les appelle à travailler de manière exemplaire. Moi, je m'imagine pas, parce que c'est impossible, je pense, de s'imaginer. On est esclave, et l'apôtre Paul vous écrit. J'aurais bien aimé qu'il écrive, faites une révolution, vous êtes beaucoup plus que ceux qui sont libres, vous pouvez le faire. Dieu est avec vous, et puis voilà, puis il prend plein de textes de l'Ancien Testament, ça aurait été plus facile, d'ailleurs. Paul leur dit pas ça. Il sait que l'amour, ici, doit transpirer dans la vie du chrétien, et que c'est cet amour-là qui est capable de transformer la vie de tout homme. Les mots qu'il choisit sont assez forts. Obéissez avec profond respect, avec sincérité de cœur. Il ne s'agit pas de faire semblant. Comme le dit Paul, il ne s'agit pas de travailler bien quand le maître nous voit ou quand le patron nous voit. Quand il ne nous voit pas, là on parle derrière son dos. Non, faites-le avec profond respect, avec sincérité de cœur, comme des esclaves du Seigneur. Paul n'attire pas l'attention des esclaves sur leur condition extérieure qui est déplorable, il attire leur attention sur la disposition intérieure de leur cœur et de leur âme devant Dieu. Ce qui se voit, c'est notre attitude. On ne voit pas notre motivation, pourtant c'est la motivation intérieure qui oriente l'attitude extérieure. C'est ce que Paul ici parle. Cette belle motivation qui est créée, soutenue, transformée par le Saint-Esprit. L'obéissance du coup respectueuse à nos patrons, à nos chefs, c'est pas juste pour faire semblant, pour toucher leur cœur, non, elle doit être réelle, elle doit être sincère. Et elle reflète du coup ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs et dans nos âmes. Simplicité de cœur, sincérité de cœur, c'est les termes que Paul emploie. Honnêteté, franchise, une âme qui veut faire la volonté de Dieu. À travers le travail de nos mains. Est-ce que nous avons ce matin le désir de servir le Seigneur et de faire sa volonté de bon cœur par notre travail? Si j'enlève par notre travail, vous allez dire oui. Ça c'est sûr, on dit oui tous oui quand c'est abstrait. Parce que oui, on dit ça, servir Dieu de tout notre cœur, c'est très abstrait. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. par notre travail, là, ça met quelque chose de concret. Et voilà, moi je me dis si c'est possible, c'est possible parce que Paul parle à des esclaves, nous on n'est pas des esclaves, et du coup si eux ont été capables de le vivre, nous on est capable de le vivre. Si on n'est pas capable de le vivre, peut-être c'est notre relation avec le Seigneur qui a un problème. C'est même pas peut-être, c'est sans doute. Et du coup laisser le Saint-Esprit, bah, qu'on aime bien, et dire Saint-Esprit, viens travailler en moi. Mon cœur qui est dur et j'arrive pas à avancer, toi viens faire en moi ton œuvre bonne. C'est ce qu'on appelle ici la liberté chrétienne. Et nos conditions de travail sont rarement parfaites. On a aussi des contraintes. Mais voilà, je suis serviteur, l'esclave du Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il va porter ce titre fièrement. Même lui, il va le dire. Je suis esclave du Christ. Et du coup, nous avons été libérés du péché, libérés de la peur des hommes, pour servir librement Jésus-Christ par la puissance de son esprit. Même dans des conditions de travail difficiles. Et dans des fois, dans des conditions de travail difficiles, voilà, peut-être, alors je dis ça, c'est moi qui le parle, hein, je me dis, quand c'est difficile, peut-être se dire, si des esclaves chrétiens avant moi ont vécu cela, ou c'était bien pire, je suis capable, par la grâce de Dieu, de pouvoir le vivre. Notre maître, c'est Jésus-Christ, c'est lui notre employeur. C'est ce que ce texte dit, c'est ce que Paul dit. Notre employeur, c'est le Christ. C'est lui notre enseignant, et du coup, c'est lui notre motivation. Quand je me lève le matin pour travailler, je le fais, pas parce que juste Dieu nous le demande, parce que ma motivation, c'est de plaire au Seigneur. Ma motivation, c'est de servir Christ à travers mon travail, par mon attitude, par tout ce que je fais. Je trouve ce texte très beau de Paul qui parle à des esclaves du Christ, des esclaves qui sont libres, du coup, libres en Christ, mais enchaînés. Enchaînés réellement, et pourtant, Paul ici parle de leur liberté en Christ, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Et cette liberté, du coup, se manifestera concrètement, du coup, dans l'Empire romain et dans la société romaine de l'époque. Parfois, notre travail peut devenir routinier. Monotone, ennuyeux. Certaines occupations n'ont pas beaucoup d'éclat dans nos travails. Des fois, on refait tous les jours les mêmes gestes, les mêmes tâches. On sert les mêmes clients, on répond aux mêmes questions, on place les mêmes bois sur les étagères. Alors voilà, ce que vous voulez hein, là-dedans. Des fois, c'est très répétitif. Et on peut se dire, mais comment un chrétien peut-il aimer et toujours faire la même chose, la même routine? C'est pas possible. C'est possible uniquement, du coup, s'il y a la bonne motivation. Et c'est possible uniquement quand le Saint-Esprit transforme en profondeur notre motivation, et cette motivation est très belle. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur. Du coup, quand vous verrez votre patron demain, c'est se dire, je le sers comme je sers le Christ. Parce que je suis esclave du Christ. On n'est pas esclave de notre patron. On n'arrive pas demain matin, allez, dites-moi ce que tu veux, je vais bien faire le ménage chez toi. c'est pas du tout ça. On est esclave du Christ, et du coup, il s'agit d'obéir à notre patron comme à Christ. Ici, c'est un respect que nous devons avoir. Du coup, si nous sommes confrontés à une situation difficile au travail, avec un employeur ou même un collègue, hein, que sais-je, sachez que du coup, ce n'est pas pour eux que vous travaillez, mais c'est pour le Seigneur. Et ça permet du coup de prendre beaucoup de recul. Nous travaillons pour Jésus-Christ, il est notre maître au ciel, et tout ce que nous faisons, c'est par obéissance à lui et à lui seul. Tout notre service, notre amour est pour lui, et parce que nous aimons aussi finalement tout ce qui nous entoure dans notre travail. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est le Seigneur qui évalue notre travail. C'est lui qui jugera notre attitude et nos motivations, et comme le dit Paul à la fin, c'est lui qui nous récompensera en fonction de notre attitude que nous aurons eue. Paul savait que c'était pas facile pour des chrétiens du premier siècle d'avoir cette motivation, parce qu'ils étaient esclaves, et du coup il va les encourager en disant, voilà, vous savez que chacun qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Et la Bible témoigne d'une égalité profonde. À la fin, elle va même conclure en disant que voilà, Dieu ne fait pas de favoritisme entre les maîtres et les esclaves, et que du coup, chacun ici aura à rendre compte devant le Seigneur. Est-ce que ça va? Donc voilà, dans nos travails, il peut y avoir du coup des torts, des injustices, et du coup, il devient des fois difficile, parfois même impossible, de trouver satisfaction dans notre travail, et pourtant, on n'a pas besoin de chercher à plaire aux hommes, pas besoin de faire tout pour attirer le regard du patron ou du professeur. Si nous sommes étudiants, il s'agit ici de tout faire parce que nous travaillons pour le Christ. C'est notre motivation. Pourquoi chercher l'approbation des autres? Nous sommes libérés ici de toute contrainte. C'est Jésus que nous servons et nous savons que rien n'échappe à son regard. Alors pour conclure, je vais dire ceci, dans le travail, du coup, Dieu nous appelle à travailler comme pour le Seigneur, comme pour lui-même. Après, on a vu une vocation, Dieu nous appelle, voilà, la vocation, le travail c'est une vocation, pas tomber dans les deux extrêmes, mais ici, c'est aller plus loin que ça. Notre motivation, c'est parce que nous sommes esclaves du Christ, c'est parce que, voilà, on veut travailler comme pour le Seigneur. Les chrétiens esclaves du premier siècle, chrétiens esclaves d'Éphèse ou de Colossiens, parce que Colossiens, il y avait la même chose, Paul va écrire d'ailleurs à peu près le même texte, à peu de mots près, et il va leur dire la même chose, et finalement, ces chrétiens vont agir comme cela, et Dieu les a utilisés puissamment comme cela pour changer la société romaine. Alors nous, on aime bien le tout fait, tout rapide, et on veut voir les conséquences rapides. On est chrétien, on veut voir du coup la société transformée rapidement parce que c'est comme ça, la société change. Mais on n'est pas prêt des fois à mettre les efforts qu'il faut. Et ici, il s'agit pour nous de mettre l'effort qu'il faut et du coup de changer le regard. De changer notre regard par rapport à notre travail, par rapport à notre patron. Que notre travail soit joyeux ou qu'il soit difficile, peu importe. Il faut que notre motivation, c'est tout ce que je le fais. Pour le Seigneur. Et par cela, du coup, tous ceux qui ne le connaissent pas vont voir le Seigneur à travers votre attitude. Ils vont se dire, mais lui, il agit différemment. Pas pareil que nous. Pourtant, on lui fait subir ça, 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 et il répond pas pareil que nous. Amen. Que le Seigneur nous aide. Voilà, on va prier que quelques voix puissent s'élever, que nous puissions nous remettre dans le Seigneur.